Chère auditrice, cher auditeur de Shalom Bourgogne, je suis aujourd'hui avec Madame Françoise Éloi, qui est secrétaire générale du comité de parrainage donc du concours national scolaire de la résistance et de la déportation. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc parler de ce concours, un petit peu de son histoire, du bilan du dernier concours et un petit peu de la suite. Alors peut-être nous rappeler votre engagement dans ce concours et pourquoi vous êtes venu prendre cette responsabilité au niveau du concours national scolaire, il faut le rappeler.
Alors, je vous parlerai pour démarrer du comité de parrainage du concours, puisque ce comité de parrainage a été créé en 1991 par Henri Berger et Victor Chautron, qui était président du département de la Côte d'Or, député, ancien résistant, et Victor Chautron, mon père, qui était donc président de l'association des résistants de Côte d'Or, et qui ont voulu justement participer à ce concours national qui était lancé, mais l'organiser avec les associations de résistants déportés. Voilà. Et donc, leur but a été de fédérer les associations. C'est pour cette raison que vous trouvez une dizaine d'associations issues de formations et d'orientations très différentes politiquement. Mais pour le concours, on essaie d'avoir le même discours auprès des jeunes et au niveau de l'étude de justement des thèmes de ces concours et des sujets concernant la déportation et la résistance. Voilà.
Alors peut-être une première question sur le sujet pour nos auditeurs. Comment est choisi ce sujet ?
Alors, tous les départements de France n'ont pas forcément ces types d'organisation. Et le comité de parrainage est systématiquement consulté pour proposer des sujets. Donc, on demande aux professeurs d'histoire, géographie de Côte d'Or et de toute la Bourgogne, mais chaque département travaille dans son coin. Et lorsque, au mois de février, mars, le rectorat nous réunit, les professeurs et ceux qui ont proposé des sujets, et nous faisons le choix des sujets. Quatre sujets sont proposés souvent dans les quatre départements, et puis ensuite il y a un choix définitif au niveau du rectorat, et les élèves ensuite ont le même sujet pour les quatre départements. Voilà.
Donc c'est pas un sujet national, donc c'est un sujet
régional. C'est un sujet régional à partir du thème national. On est d'accord ?
Le thème qui est choisi par l'éducation nationale, thème général.
Il est choisi par une commission qui s'occupe du concours national de la résistance et de la déportation. Mais ce qu'on souhaite surtout, et ce qu'on avait demandé, nous, au niveau des associations, c'est que dans le choix du thème général, on allait un peu orienter, si vous voulez, la résistance et la déportation vécues dans les différents départements de notre région, si vous voulez. Ce qui fait qu'automatiquement, vous n'allez pas trouver obligatoirement traité par les élèves le sujet dans le nord ou le sujet du sud, parce que les élèves, les résistants déportés, n'ont pas forcément vécu la même chose. Ne serait-ce que, par exemple, il y en a qui l'ont vécu dans les zones occupées, d'autres qui des zones non occupées. Enfin, vous voyez, il y a des tas de... et là, c'est quand même intéressant. Donc, on donne ce sujet à peu près au mois d'avril. On fait connaître aux élèves et les élèves préparent un sujet écrit, individuel, une copie individuelle ou un devoir collectif. Ils travaillent en groupe, ce qui fait qu'automatiquement, ils font des recherches sur le sujet donné, mais se rapportant à des résistants et des déportés de la Côte d'Or. Enfin, je vous parle de la Côte d'Or puisqu'on est en Côte d'Or, mais les mêmes démarches sont faites dans Lyon, dans la Saône-et-Loire, également en Franche-Comté, etc. Donc c'est très diversifié et on n'aura pas forcément les mêmes types de sujets ou les mêmes approches parce qu'il y a l'histoire qui nous aura marqué et qui aura marqué les élèves. Et de ce fait, c'est la raison pour laquelle le comité de parrainage avait été créé, c'est de pouvoir récupérer tous les témoins de la Deuxième Guerre mondiale, résistants et déportés, qui allaient, à partir du thème qui était proposé pour le concours, préparer avec les élèves, parler de la résistance ou parler de la vie en camp de concentration en orientant en fonction du thème proposé. Voilà, donc c'est pas toujours facile. D'accord. Pour les élèves.
Ce ne sont pas toujours les mêmes classes que ça doit s'intégrer. Non. Dans des programmes. Ça rejoint un programme, c'est ça ?
Ça rejoint un programme. Alors, généralement, ce sont les élèves de classe de 3e dans les collèges. Et puis là, cette année, on a eu, et là, on a beaucoup apprécié, des élèves de terminale ou de première. Mais cette année, des élèves de terminale qui préparent leur baccalauréat, parce qu'il faut penser qu'ils ont leur baccalauréat pratiquement en même temps que les épreuves du concours et qui nous ont sorti des dossiers extraordinaires. Du reste, dossiers, j'en reparlerai peut-être plus tard, qui sont partis à Paris pour le jury national. Alors qu'habituellement...
Donc il y a un double jury en quelque sorte.
Il y a trois jurys. Jury départemental, ensuite jury régional et jury national. Donc c'est quand même sérieux, dirons-nous. Et là, le comité de parrainage en Côte d'Or sélectionne pour le jury départemental et intervient également dans le choix du jury régional, si on est d'accord. Et puis après, ben, ça part à Paris et nous aurons les résultats, je pense, au mois de septembre, octobre, sur les candidats. On a trois classes qui sont promues au jury national.
Donc ce sont les lauréats qu'on a rencontrés.
Voilà, que vous avez rencontrés lors de la remise. Voilà.
La remise des prix avec Madame la préfète. Voilà. Vous avez introduit donc cette séance.
Voilà.
Et Madame la préfète est intervenue et tous les enfants ont été reçus.
Voilà. Et on tenait beaucoup, de plus en plus, et ça se fait depuis très longtemps, mais l'avantage c'est que Madame la préfète venait d'arriver le lundi et la cérémonie avait lieu le jeudi. Et là, je trouve qu'elle a fait. Non pas un effort, mais qu'elle nous a vraiment valorisé malgré le travail qui devait l'attendre. Et là, les jeunes, on a beaucoup apprécié, enfin surtout les jeunes ont beaucoup apprécié leur présence et l'accueil réservé qui leur a été réservé au sein de la préfecture par Madame la préfète et par l'inspecteur d'académie. Et ensuite, ils ont pu parler, témoigner du travail qu'ils avaient réalisé. Et ça, c'est important. Là, au niveau du comité de parrainage, on a toujours insisté que ça ne soit pas les officiels, que ça ne soit pas les professeurs ou des parents, etc., mais que ce soit les jeunes qui fassent eux-mêmes le travail et qui témoignent et qui nous parlent de ce qu'ils ont acquis pendant la préparation de ces concours.
Alors, une toute petite parenthèse, c'est que Radio Shalom a mis deux podcasts qui sont en ligne actuellement sur le site internet. Un extrait de l'intervention de la préfète, qui est une intervention personnelle, ce n'était pas un discours officiel national. Non. Et je dois dire qu'il avait énormément de qualité, il a beaucoup touché les jeunes gens que nous avons interviewés.
Et là je le confirme, parce que là, pour la première fois où elle était projetée dans cette cérémonie, mais je pense qu'elle n'a aucun moment d'attente ou d'inquiétude, parce que c'est quelqu'un qui a une forte qui a une personnalité intéressante, et elle a été son discours a été vraiment très très apprécié par les jeunes et par les personnes qui étaient présentes à cette cérémonie.
Voilà, et donc vous aurez un deuxième podcast avec une interview de trois lauréats, voilà, donc sur le site de Radio Shalom. Pour revenir donc sur le concours, on pourrait peut-être prendre comme exemple le dernier, c'est-à-dire celui où le thème était, je crois, justice et choix, et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vu, vous, ce travail et ces résultats.
Alors, c'était pas un sujet, c'est toujours très compliqué d'expliquer aux jeunes et de les intégrer sur le thème de la Shoah, sur le thème de la déportation et de la vie dans les camps. Et là, nous avons des consignes de Paris. Donc, systématiquement, on les transmet, ces consignes qui développent un peu le sujet pour faire comprendre aux élèves ce dont on attend de leur part. En réalité, donc, on se contente de transmettre aux professeurs et en leur disant, ben, voilà les supports de travail et allez-y. Alors, il y a des gens qui s'en sortent bien, d'autres beaucoup moins bien. Mais notre particularité aussi qui est importante, c'est qu'on accepte tous les niveaux d'élèves, quels qu'ils soient. Que ce soit des lycées professionnels, que ce soit des lycées d'enseignement général, internationaux, etc. Pour nous, l'investissement des jeunes est très important et on tient compte du niveau. Mais parfois, effectivement, ça demande quand même pour certains élèves un investissement important parce que le sujet demande des compétences linguistiques, des compétences historiques et on ne peut pas raconter n'importe comment.
C'est un sujet passionnant puisqu'il est situé sur la période 1944-1945, la fin de la guerre, et ensuite les conséquences dans l'évolution du droit international. En l'occurrence, donc c'était effectivement un sujet complexe.
Non, il a été difficile.
Donc ça tient aux professeurs, parce que dans le fond, c'est les professeurs qui vont s'investir dans les lycées ou les collèges, qui sont responsables que ça puisse marcher ou pas, finalement.
Voilà, qui forment leurs élèves. Ouais. Alors, deux types quand même de travaux. Des travaux individuels, donc ça veut dire que l'élève va recevoir des informations de la part de son enseignant, mais après, les élèves, individuellement, vont faire un travail. Vont rédiger un travail personnel. Donc là, il n'y a pas du tout, on est sûr qu'il n'y a pas d'influence de la part du professeur, c'est un travail personnel. Et on a trouvé des copies extraordinaires. Et là, je félicite aussi les élèves, mais également les professeurs, parce que là, les professeurs ne sont plus connus, si je puis dire, si ce n'est qu'au moment. Et puis, deuxième type de travaux, c'est des travaux de groupe qui peuvent être. Alors, par exemple, le lycée International Charles de Gaulle, ils ont travaillé sur une classe terminale qui prépare le baccalauréat avec M. Dimitri Vouzel sur un thème, ils sont 29 élèves à travailler. Donc automatiquement, ce qui veut dire travail de groupe, management, compétences, et là, ces jeunes ont réalisé un travail extraordinaire, donc qui a été présenté à Madame la Préfète et qui Monsieur Sroda, professeur du lycée Saint-Joseph. Les travaux sont partis pour Paris. Donc là, nous vous tiendrons au courant des résultats obtenus. On espère que ça marchera pour eux aussi, comme ça a bien marché au niveau du département, de l'académie. Et maintenant, c'est sur Paris.
Est-ce que vous avez le thème du prochain concours
Il va sortir, je pense, au mois d'octobre, novembre. Et là, alors là, c'est donc Paris qui nous transmet la proposition de thème. Et ensuite, nous allons prendre contact avec les professeurs pour qu'ils adaptent un sujet en fonction de la vie, de la résistance ou de la déportation. Je ne sais pas quel sera le contenu. Et pour que les élèves puissent trouver des exemples très précis dans de nos régions, de nos départements. Voilà. Et ça, c'est quand même important.
Ce que je voulais voir aussi, Madame Eloy, avec vous, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du comité de parrainage du concours national scolaire de la résistance et de la déportation. C'est la question des enjeux, puisque au-delà des connaissances, au-delà des méthodes de travail, donc de la rigueur, de la réflexion, travail individuel, travail en groupe, plusieurs formes. Il y a aussi des enjeux, je dirais, de citoyenneté, pour faire court, puisque l'idée, Madame la Préfète en avait parlé dans son discours, c'est bien aussi de permettre à ces jeunes gens d'avoir une capacité de réflexion et de transmission pour que ces affaires-là ne se reproduisent pas forcément, en tout cas pour qu'ils appartiennent à un monde de futurs citoyens ou de citoyens vigilants pour que nos institutions démocratiques et libérales puissent continuer à fonctionner. C'est quand même un des enjeux très clairement de ce type de concours. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce type de travail, il y en a d'autres avec les professeurs d'histoire, mais celui-ci est quand même très fort et transversal à beaucoup d'établissements. Est-ce que vous pensez aujourd'hui la manière dont c'est fait, les enjeux, est-ce que vous pensez que c'est suffisant, que c'est nécessaire, qu'il faudrait faire autrement, enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense qu'on est quand même à un virage pour le moment, parce que d'abord, tous les témoins directs ont disparu. Enfin, sauf un maintenant qui a 98, 99 ans, mais bon, qui n'intervient plus, etc. Donc, ce qui veut dire que déjà, on a changé nos méthodes de travail. Ce sont souvent les enfants ou les petits-enfants de ces témoins qui témoignent. Donc, il y a eu déjà une modification. On voit bien que ce ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus les mêmes approches, ce ne sont plus les mêmes contenus. Et donc, pour nous, pour moi, il me semble qu'il va falloir qu'on revoie peut-être même le mode de fonctionnement de ces comités de parrainage, parce qu'en réalité, ces associations avaient de nombreux participants. Chaque association avait une vingtaine, une trentaine de résistants déportés. Là, maintenant, quand je reprends certaines listes, je vois qu'il n'y a plus qu'un président de l'association qui fait trésorier, secrétaire. Donc là, même s'il est, il existe toujours l'idéologie, etc., mais on ne peut pas travailler tout seul, qu'on le veuille ou non, même si le comité de parrainage se regroupe pour travailler sur les thèmes, là on le fait, mais chacun a quand même son investissement, son intervention, son idéologie. Et donc, automatiquement, il faut qu'on soit attentif que les jeunes reçoivent, avec les résistants déportés, moi, je n'ai jamais vu de déviance. Là, maintenant, je suis plus exigeante.
Moins confiante, oui.
Moins confiante sur les messages qui sont donnés par les témoins qui ne sont plus directs.
Ce qui veut dire que la lecture de cette période pourrait redevenir très idéologique.
Tout à fait.
Et être moins rigoureuse.
Pour moi, oui.
Dans la manière de transmettre les informations, les choix.
Et quand on voit l'évolution de la solution, enfin de la situation actuelle, pardon, moi je m'aperçois qu'il y a des mots qui reviennent de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et je me dis, mais attends, on n'est plus dans cette situation-là. Et c'est ça qui m'effraie un peu, parce que je me dis, tous ces mots, je ne vais pas les utiliser parce que ça me gêne beaucoup, mais en réalité, je me dis, non, là, il y a une transformation, il faut qu'on soit très attentif. Et puis, alors, le problème quand même que rencontre, alors je ne veux pas accuser l'éducation nationale, c'est que l'histoire a continué, hein. Vous avez eu guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, enfin, vous pouvez énumérer peut-être les guerres, c'est peut-être pas une bonne idée, mais enfin, et l'histoire, elle continue. Et actuellement, les programmes continuent à grossir. Et il faut dire que, bah, de temps en temps, la Deuxième Guerre mondiale s'éloigne de plus en plus, et les professeurs, s'ils ne sont pas passionnés par ces thèmes, vont l'aborder, mais d'une autre manière, et vont passer très rapidement. On ne peut pas exiger de la part de l'enseignant qui fait le maximum. Là, j'apprécie beaucoup de travailler avec les professeurs d'histoire qui sont très investis et qui ont vraiment envie de passer des messages auprès de leurs élèves. Mais je me dis, là, ça m'interroge, parce qu'il arrive un moment où on ne peut pas traiter tous les sujets de la même manière, avec une philosophie, avec un contenu précis, etc. Là, automatiquement, puis les professeurs sont de plus en plus jeunes et ont moins connu également les témoins, donc il faut qu'on soit très attentif. Alors, je ne dis pas que ça se passe mal, au contraire, mais il ne faut pas que ça soit uniquement que l'éducation nationale qui s'empare de ces thèmes, parce qu'en réalité, je trouvais que le fait que des associations ou que des gens extérieurs à l'éducation nationale puissent intervenir, c'est quand même utile au niveau de l'ouverture d'esprit des jeunes et des questions qu'ils peuvent se poser. Et c'est pareil, continuer à visiter les camps de concentration, mais avec le même état d'esprit que du contenu de ce qu'est un camp de concentration, et non pas une partie de balade pour la fin de l'année, quoi. Dans certains cas, c'est un petit peu ce qui m'est déjà apparu, et je trouve, je critique pas, mais il faut quand même être attentif. On peut pas aller dans un camp de concentration comme on va visiter
Mais c'est très compliqué de
voilà.
toute façon,
c'est
puisque
compliqué.
Souvent dans les lieux, il n'y a pas grand-chose, donc ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances, ça veut dire qu'il faut
ce
avoir
qui veut dire que ceux
temps.
Qui encadrent les visites doivent être vraiment très connaisseurs. Alors, soit vous avez les moyens financiers et vous avez des guides, soit vous avez encore des témoins, enfin, ou des associations qui se sont formées, et ça a été le cas du comité, où il y a encore, à nos niveaux, on va tous les 5 fois ou 6 fois par an au camp de concentration du Struthof en particulier. Mais on est allé en Europe avec des élèves, avec des groupes d'élèves. Et généralement, on avait quand même vraiment préparé avec eux le contenu. Et ça, c'est très important. Avec des consignes très précises, du respect. Vous avez toute une panoplie, si je puis dire, entre guillemets, le mot n'est pas très judicieux, mais qui permet de faire découvrir ces lieux, qui sont quand même des lieux encore de mémoire, oui, qu'il ne faut pas oublier.
Oui, puis pendant la visite, il faut ces temps-là aussi, il y a le groupe, il y a les discours, mais il y a aussi chacun, comment il perçoit, comment il ressent. Donc ça veut dire aussi qu'il faut un rapport au temps et aux échanges qui permettent à chacun, dans son rythme et dans sa mentalité, ses émotions, de vivre et d'intégrer ça de manière subtile.
Du reste,
donc, pas simple.
Du reste, pour nous, on part jamais sans avoir rencontré le groupe, sans avoir préparé avec eux, qui nous connaissent, qui nous reconnaissent, qui sachent comment on fonctionne. Sinon, je vous dis, c'est une classe promenade, c'est pas ça.
Alors, peut-être, Madame Éloi, préciser, parce que je ne voulais pas demander au début de notre entretien, pourquoi vous, finalement, vous qui avez bien d'autres choses à faire dans votre vie professionnelle et autres, d'autres engagements en matière d'Europe notamment, comment se fait-il que vous êtes engagé avec force dans ce travail ?
Il faut dire que, bon, de par ma naissance, hein, je suis née juste avant l'affaire Werner qui a beaucoup marqué la Côte d'Or et l'Aussois, et j'ai vécu avec mes parents ces périodes difficiles, même si j'étais bébé, etc. Mais je peux vous dire que j'ai toujours vécu avec cette histoire, ces morts, ces jeunes résistants qui ont été fusillés, etc. Et mon père était donc engagé avec le docteur Berger pour le souvenir de la résistance en particulier, puis après les déportés parce que ils ont tout lancé au même moment. Et pour moi, il était bien évident que je n'étais pas prête. Alors, j'étais ancrée, j'étais entourée des chefs de maquis, des résistants. Tous les monuments de Côte d'Or, j'ai pu les faire lors des cérémonies officielles avec les généraux divers et les hommes de troupes, etc. Mais je m'adaptais, c'était passionnant parce que je suis une passionnée aussi d'histoire. Mais moi, ma formation m'a plus portée. Je me débrouille en allemand. Je fais des fautes, ça je reconnais. Mais j'ai toujours été ouverte sur l'Europe. Donc je suis partie dans le cadre de la maison de Rhénanie-Palatinat-Bourgogne. Et pendant plus de 20 ans, j'ai dirigé, après le général Brett, cette maison. Et donc, de ce fait, on a travaillé avec Till Meyer et on l'a ouvert aux jeunes. Et on a fait de nombreuses actions avec l'Office franco-allemand. Donc, pour moi, travailler avec les résistants déportés, je n'en avais jamais eu l'idée. Et quand mon père est mort, on est venu me chercher en me disant « Écoute, tu vas remplacer ton papa. » C'était en 2007. Je leur ai dit, là déjà, j'étais un peu gênée parce que je me dis « Mais vu ma situation pro-allemande, pro-européenne jusqu'au cou, parce que moi, j'ai travaillé avec tous les pays européens, etc. » Donc là, je me dis « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir ?» Donc, je les ai écoutés, ils m'ont accepté. Apparemment, j'étais très très prudente, je les écoutais, mais j'ai eu affaire à des témoins extraordinaires qui ont fait que progressivement, je me suis adaptée aux associations de résistance, aux associations de déportation. J'ai fait les camps de concentration européens avec les groupes qui m'expliquaient, avec les groupes étrangers aussi européens que j'ai pu rencontrer. Et c'est comme ça que je vais terminer cette mission très rapide, enfin dans un délai rapide, mais sachant que je pense, mais c'était un travail de groupe, hein. C'était pas Éloi qui dirigeait cette association, hein. Moi, c'était les idées des uns et des autres. Mon rôle, c'était de faire aboutir et de réussir auprès des élèves, auprès des professeurs, auprès des politiques et auprès des actions internationales qui pouvaient être intéressantes pour nos actions en Côte d'Or. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu le phénomène, c'est parce que je pense qu'il n'y avait personne d'autre à mettre sous, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que je me suis trouvée projetée, j'ai quand même hésité, et puis on m'a dit, ah, non, mais de toute façon, tu n'as même pas à discuter, donc c'est bon. C'était Monsieur Lebris qui était à cette époque-là le responsable, et qui est venu me chercher, qui a disparu très rapidement, ce qui fait que je me suis trouvée un peu seule. Mais les présidents d'associations m'ont beaucoup aidée et là m'ont encadrée, m'ont formée et j'espère avoir répondu à leurs besoins. On s'est entendu malgré la différence de politique et d'appréciation même au niveau de la résistance, au niveau de la déportation et au niveau de la politique même actuelle, etc. Mais on a toujours su garder une réserve et se respecter les uns les autres. Et ça, c'est un point que j'expliquerai le plus facilement en disant, malgré le fait qu'on n'ait pas vécu les mêmes choses, qu'on n'ait pas la même idéologie, on est capable quand même de témoigner auprès de jeunes sans s'impliquer idéologiquement, systématiquement et en les formant, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a la possibilité de choisir et on peut, chacun a sa liberté, hein, et chacun a sa manière de fonctionner. Voilà, mais c'est simpliste, hein, ce que je vous dis.
Bon, sachant qu'on est, vous l'avez dit tout à l'heure, devant un moment difficile puisque les témoins disparaissent quasiment tous avec l'âge et que comment continuer, parce que c'est pas la même chose du point de vue de l'émotion, c'est pas la même chose du point de vue du témoignage. Donc là, c'est tout va devoir changer.
Oui.
Et il va falloir garder de la rigueur, pouvoir transmettre autrement aux jeunes, parce que je pense que je pensais là, récemment à quelqu'un, parce que je suis un petit peu son travail, Madame Kolinka à Paris, qui fait beaucoup dans les écoles. On voit l'importance de la parole de celui qui a connu, qui a vécu, et qui, sans être uniquement sur l'émotionnel, mais qui s'engage dans sa personne et traduit à travers elle toute cette histoire terrible. Et ça, malheureusement, pour l'instant, visiblement, les solutions ne sont pas...
Nous, au niveau du comité de parrainage, quand même, moi, j'ai quand même un peu réfléchi, parce qu'on ne pouvait pas arriver, et puis je trouve ça totalement inutile d'arriver pour expliquer l'histoire de son père ou de son grand-père, etc., ou de sa grand-mère. Hein. Il n'y a pas que le grand-père. Et donc, de ce fait, je me dis, il faut qu'on change de méthode de travail. Donc, par exemple, à notre niveau, pour s'opposer au racisme, à l'antisémitisme et à toute discrimination, j'ai proposé aux membres du comité de parrainage d'utiliser, par exemple, les valises mémorielles. C'est-à-dire que là, on n'a plus à exposer, mais on va travailler sur le thème du concours ou d'un autre thème, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et donc, on a fait création de chemins de mémoire avec les enfants dans les petits villages, création également, préparation de valises, donc aller chercher tout ce que vos arrière-grands-parents ou grand-mères, grands-pères ont conservé de la Deuxième Guerre mondiale, travail. Et ça, ça marche super bien, parce que les enfants, en plus, sont impliqués. Hein. Nous, on ne fait que donner des idées. Et après, et je vois par exemple, l'année dernière, à Clénay, les enfants ont organisé la cérémonie du 8 mai. Ils sont arrivés avec leur valise mémorielle. Vous étiez scotchés parce qu'ils avaient sorti également des appareils pour écouter la musique, enfin des choses comme ça. Et ils connaissaient. Et alors, il n'y avait qu'un seul étranger à Clenay, et c'était un petit Anglais qui lui aussi a cherché dans sa famille anglaise l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, je pense qu'en trouvant d'autres méthodes de travail que le témoignage, parce que de toute façon, il se déforme ce témoignage et que souvent, moi, quand j'entends certains témoignages, je suis ahurie d'entendre les résultats en comparant le témoignage des témoins directs et des enfants. Je me dis, non, mais c'est une autre histoire. Et ça, c'est dangereux, oui, parce que l'histoire n'est plus. Donc, je me dis qu'en étant dynamique, il y a quand même tout un travail, et je suis sûre que les professeurs, j'ai travaillé avec des collèges, justement, et même, par exemple, notre devoir de mémoire sur Dijon, qui ne connaissent pas. En réalité, je suis partie avec 50 jeunes de 4e, je n'étais pas très bien, mais ça ne fait rien. Ils m'ont cherché des chaises, des terrasses pour que je puisse me reposer, et on a fait toute la visite mémorielle de Dijon. Ils étaient super ravis, mais là, c'était un travail d'équipe, professeur de mathématiques, professeur d'allemand, professeur d'histoire, et là, je vais faire le point avec eux pour savoir ce qu'ils ont fait. Et là, j'étais ahurie parce que dans le fond, donc il y avait des membres du comité de parrainage qui m'ont accompagnée. Mais en réalité, c'était un collège qui avait la réputation d'être difficile, alors que les élèves ont été extraordinaires. Ils ont été intéressés et qui m'ont rappelé, ont renvoyé un mot en disant bah, « J'espère que l'année prochaine, on vous reverra. » Oui, mais je me dis « Là, tiens, ça a marché. » Ça ne veut pas dire qu'on est sensationnel. Oui, simplement, ils ont cherché, ils savaient qu'ils avaient leur petit bouquin, on allait visiter, ils écoutaient les explications complémentaires, et après, ils ont travaillé avec leurs professeurs sur les différents thèmes, justement, du concours, et voir comment on pouvait, entre les différentes matières. Et ça a permis de retrouver des professeurs qui avaient fait leur parcours avec madame, avec Émilie Noé, avec Marcel Suireau, qui disent, mais attendez, ah, mais je me souviens, j'étais passée là, mais c'était l'affaire Marsac, là, etc. Et je dis, ben, vous voyez qu'il vous reste quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est quand même important, plus important qu'on ne le pense.
On peut rappeler d'ailleurs que l'Académie et la région, au point de vue éducation sociale, ont mis en place les routes mémorielles, qui est un travail de valorisation de lieux de mémoire locaux, soit un peu délaissés, soit abandonnés, soit inexistants, et que les enfants, Radio Shalom participe, ont fait un travail extraordinaire aussi avec, avec leurs professeurs en particulier. Et puis aussi tous les enregistrements qui sont faits des témoins, dont Spielberg, hein, qui a fait un travail énorme. Puis en France aussi, il y a beaucoup de gens maintenant qui recueillent, qui ont recueilli ces dernières années la parole des témoins, et avec une qualité d'entretien, de film, qui fait que ça sera comme une matière utilisable dans la formation des élèves.
Par contre, nous, on a quand même aussi créé notre site internet, qui demande quand même un travail important. On a retrouvé quand même pas mal de lieux, et même ça nous permet de continuer à travailler avec les associations locales de résistants, etc., qui apprécient, là aussi, c'est une évolution d'une autre manière, vous voyez, partir de lieux de mémoire, et on revoit et on revérifie l'histoire des maquis. Or, on s'aperçoit que l'histoire est quand même pas mal modifiée, mais les historiens ont fait attention. On essaie de récupérer les témoignages dans les villages, mais on constate que c'est pas si facile ça, et que la Deuxième Guerre mondiale, elle n'est pas si loin que ça, et qu'elle a laissé des traces qui sont parfois indélébiles. Et de ce fait, on avance, et on fait justement des découvertes sur des monuments de mémoire. Et je vais vous dire, souvent, on utilise aussi les cyclistes en leur disant, quand vous passez dans les bois et que vous voyez une croix ou une plaque, vous ne pouvez pas nous la prendre en photo, vous voyez. Et en réalité, on a beaucoup de cyclistes maintenant qui prennent contact avec nous. Est-ce que vous avez ce monument? Là, je me dis, dans le fond, c'est comme ça qu'on peut aussi... C'est simpliste, hein. Je ne dis pas qu'on va faire des choses extraordinaires. Mais je trouve que là, Il y a des choses qui peuvent se passer et que en étant un petit peu organisé, on peut trouver, on peut faire des choses passionnantes.
Très bien, merci beaucoup Madame Françoise Éloi, donc secrétaire générale du comité de parrainage du concours national scolaire de la résistance et de la déportation. C'est très long, mais
oui,
il ne faut rien oublier.
Non.
Et merci beaucoup pour cette explication et de vous être impliquée aussi dans notre échange personnellement sur votre parcours sur lequel nous reviendrons. À très bientôt.
À très bientôt, merci.